À deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
On est à deux, c'est mieux, en direct du restaurant La Bouffetifaille avec Frédéric Dufort. Salut.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va super bien.
Frédéric, auteur prolifique maintenant, parce qu'en 2 ans, tu as fait 3 livres.
Oui, ça va vite. Le premier a pris 7 ans, puis les 2 autres ont pris 3 mois. Il s'est passé quelque chose entre les deux.
On parlait du plus récent parce qu'il y en a un qui est paru il y a 2 jours.
Oui.
Miss Parfaite, ton premier roman.
Exact.
Comment est venu le goût de faire un roman d'abord?
J'ai été vraiment très chanceuse parce que j'ai été approchée pour écrire un roman jeunesse parce que les gens voyaient que j'avais quelque chose à dire aussi, puis peut-être que j'avais un bon contact aussi avec les plus jeunes, même si je suis désormais une adulte. Je suis pas très grande non plus, fait qu'on dirait que les jeunes ont continué de s'identifier à moi, puis ils m'ont demandé aussi d'écrire un roman. Dans le fond, c'est vraiment pour les petites filles. Ils m'ont dit, pour les jeunes filles adolescentes, on veut quelque chose de différent qui vient de toi. Au début, c'était une commande, puis finalement ils m'ont vu commencer à créer, puis on dit, tu sais quoi, on va te donner carte blanche, amuse-toi. J'avais jamais écrit de roman. Finalement, il s'est écrit en presque 2 semaines, je pense, parce qu'en dernière minute, on changeait, on avait déjà un autre livre qui sortait, fait que ça a été quand même assez complexe. Mais c'est tellement agréable de créer un univers, moi qui ai toujours été dans l'univers de la télé. Puis là, tout d'un coup, c'est à mon tour de créer un univers pour les gens qui avaient mon âge quand moi j'ai commencé. Fait que c'est vraiment comme ça qu'est née Miss Parfaite. Puis c'est ce qui est beau avec justement le terme, c'est que c'est tout sauf parfait. C'est le côté sarcastique de dire à cet âge-là, mon Dieu, qu'on veut tout le temps être beau, être belle, être bon à l'école, on se met de la pression. Fait que c'est justement d'utiliser mon côté adulte pour amener des leçons de vie à des jeunes, mais aussi à leurs parents.
Mais ton personnage, c'est ça. Les gens autour d'elle
la
voient comme parfaite.
Ben oui, parce que dès que tu vas à l'école, que tu es une petite fille souriante, que tes parents t'aiment beaucoup, tu as des bonnes notes, tu as des amis, tu es la chouchou des professeurs, par exemple. Mais je dis à l'inverse, avec les gens de ton âge, ben quand tu es la chouchou des professeurs, ben t'es plus une têteuse que d'autres choses. Ouais. Quand t'as beaucoup d'amis, ben t'es cool, t'es populaire. Ah, t'as des amis de gars, ben là, elle veut croiser tout le monde. À l'inverse, quand elle revient à la maison puis que ses parents sont donc bien fins, tes parents sont cool, oui, mais face à moi, mes parents, ça reste mes parents. Fait qu'on chicane quand même. Ah, une grande sœur, vraiment le fun, vraiment sympathique. Est-ce qu'un jour, je vais être aussi belle que ma grande sœur? Est-ce que je vais être aussi intelligente? Est-ce que je vais avoir autant des bonnes notes qu'elle? Donc, c'est tout le temps cette pression-là, puis dire, hey, est-ce qu'un jour, moi aussi, je peux juste être moi-même, peut-être un peu plus triste des fois, d'avoir des hauts, des bas, puis de se dire que tes amis, c'est une chose, mais peu importe le nombre d'amis Facebook que t'as, si tu reviens chez toi, mais que tu te sens tout seul.
Ah ouais, non, ça, c'est ça.
C'est pas la même.
Les 2 livres que t'as fait avant partaient de toi.
Oui.
Donc, il y avait une base déjà. Là, tu partais d'une feuille blanche.
Oui.
Et il fallait que tu crées un univers. Est-ce que c'est épeurant, ça?
C'est terrorisant, surtout considérant que les gens souvent vont dire « Ah, c'est bon, continue, mais tu sais pas où tu t'en vas. » C'est comme là, déjà, on est en train de me parler du deuxième. Puis j'ai juste hâte de me replonger dans l'histoire de Maya parce que je sais pas qu'est-ce qui va y arriver, je sais pas qui elle est encore, je sais pas ce qu'elle va découvrir. Puis c'est ça, c'est qu'au fil des mots, t'apprends à découvrir des personnages aussi. Fait que moi, pendant 1 semaine et demie, je peux dire que j'ai rêvé à ces personnages-là, je les voyais dans la nuit, je me réveillais, ils étaient là, tu sais, vraiment, tu t'ancres dans quelque chose alors que écrire, exemple, fais-le pour toi, c'était de m'ancrer dans mon vécu à moi. C'est peut-être un peu plus difficile de parler de soi-même parce que là, il faut que tu te ressasses des choses. Tandis que l'autre, c'est peut-être plus de m'évader. Un roman, c'est vraiment ça. Puis c'est ça le but d'un roman, c'est de permettre aux gens de s'évader dans une histoire, de voir quelque chose, d'imaginer. Puis c'est ce que je trouve le plus beau, tu sais, de la lecture. Moi, je me rappellerai toujours qu'il y a certains personnages qui m'ont marqué, mais j'ai eu l'impression que c'était mes personnages, que je pouvais me les approprier puis m'approprier leur histoire. Puis c'est ce que j'ai voulu faire aussi. C'est les personnes qui te donnent un livre pour la première fois, tu te rappelles de tes premières lectures, mais aussi des gens qui te les ont offert puis avec qui tu as vécu ça. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vais en salon du livre, puis je réalise que c'est des grands-parents, des parents qui viennent acheter leur livre pour leurs enfants, puis c'est eux qui l'offrent, bien moi, tout d'un coup, le cercle vient de tourner, puis tranquillement, c'est moi qui ai rendu l'auteur qui fait ça aussi.
C'est tough convaincre les jeunes de lire. Il y en a beaucoup qui veulent pas lire.
Ouais.
De savoir qu'il y en a qui vont choisir ton livre et que c'est peut-être ça qui va leur donner le goût à la lecture, parce qu'on a tellement eu des lectures obligatoires qui nous ont écœurés à jamais de lire un livre. Mm. Là, de savoir qu'ils te choisissent toi, ça te fait quoi?
C'est excessivement flatteur, mais je pense aussi qu'ils ont vu que mon discours n'a jamais été que c'est obligatoire. Moi, en partant, je dis, si ça ne te tente pas de le lire, ferme-le, puis va en trouver un autre qui t'intéresse vraiment. Parce que c'est ça le problème, souvent. C'est ce qu'ils ne comprennent pas de la lecture, c'est ce qui est important, puis ce qui est le fun, c'est ce que toi t'aimes. Fait que c'est juste de trouver des thématiques que t'aimes, puis qui vont t'amener à t'intéresser à ça. Fait que c'est vraiment de se concentrer là-dessus. Puis c'est sûr que de dire qu'à cet âge-là, les jeunes à 12-13 ans, c'est ce que je trouve beau, au contraire. Je pense que la lecture permet une communication puis une coupure des réseaux sociaux. Fait que tout d'un coup, c'est un monde qui est pas réel, c'est un monde fictif, mais qui nous coupe du monde non réel qui est la technologie. Donc, ça amène ce petit côté-là, je trouve vraiment intéressant. Puis je pense qu'il n'y a jamais eu autant de parents qui ont voulu encourager les jeunes à aller en salon du livre. Sincèrement, même moi, je le vois, à 12-13 ans, il y en a plusieurs qui décident de venir un samedi alors qu'il y aurait tellement d'autres choses à faire parce que justement, c'est quelque chose qui ne se perd pas de génération en génération, puis qui se passe justement. Tu sais, des vieux livres, il n'y a rien qui va pouvoir remplacer un bon livre, même si c'est électronique, même s'il y a sur tablette maintenant aujourd'hui. Je pense que l'odeur d'un livre, prendre un livre, aller à la bibliothèque, c'est quelque chose qui va rester. Puis les jeunes, les parents surtout, par exemple, je suis porte-parole du Salon du livre de Longueuil. Ouais. Qui est pour les plus jeunes aussi, pour intéresser les enfants. Puis j'ai jamais vu autant d'enfants arriver puis dire, moi, mes parents, ils me donnent des sous pour lire. Puis tu fais, là, on comprend qu'il y a un impact parce que les parents, ça leur permet aussi d'aller chercher leurs enfants puis dire, on va lire une histoire ensemble. Ça, c'est...
Est-ce que c'était clair qu'il allait avoir, que ça allait être le début d'une série parce que c'est écrit un sur
oui.
le livre?
Donc, oui.
c'est clair qu'il y aura.
T'es le seul qui l'a remarqué.
Un, deux. Il y aura donc un, deux.
Oui,
Est-ce que tu le savais dès le départ que ça ne s'arrêtait pas à un livre, cette
oui.
histoire-là?
Oui, c'était vraiment... on était concentrés sur une série, puis je voulais découvrir et que les gens découvrent avec moi un personnage et des personnages autour d'eux, un noyau familial, tout ça, mais je voulais que ça se continue parce que, comme je t'ai dit tantôt un petit peu avant l'entrevue, je suis comédienne, j'ai toujours été dans un milieu où l'imaginaire était tout le temps en train de fructifier, que c'était beau justement, qu'il fallait créer. Et surtout, de me dire si moi, je suis capable de créer un univers comme ça. Tu sais, j'ai joué dans Tactique. Ouais. Et ça a été, de mes 12 à mes 17 ans, ça a été ma vie en même temps que l'école. Je me dis si je pouvais recréer ça pour ces jeunes-là, de cet âge-là. Un univers comme ça qui peut se projeter à la télé ou dans lequel eux peuvent se projeter puis se dire, moi, un jour, ça se pourrait que je joue ce personnage-là. Parce que je me rappellerai tout le temps d'avoir lu certains livres en me disant, s'ils pouvaient l'adapter à la télévision,
okay.
je pourrais être dedans. Fait que c'est... Faire rêver.
L'as-tu écrit comme on écrirait une série télé, c'est-à-dire en voyant dans ta tête les décors? Parce qu'évidemment, la télé, contrairement au livre, c'est que le décor, finalement, on va le voir à oui. l'écran, alors que le livre, c'est dans notre tête que ça se passe. On va se l'imaginer nous-mêmes. Mais si c'est bien décrit, on va être très bien capable de
oui.
le voir.
Puis ça, c'est très drôle parce que moi, mon père est quelqu'un qui ne lit pas du tout. Puis la première chose qu'il a dit...
D'une
fille auteur.
Il est comme pogné pour lire un peu.
Là, il s'est forcé, mais il a commencé à lire, puis je l'ai entendu rire.
Okay.
Et ça m'a tellement fait plaisir parce qu'il dit, je t'ai vu, je me suis reconnue à certains moments, j'ai reconnu des gens, j'ai reconnu des endroits, mais il dit, je sais que moi, je me suis reconnue à certains endroits et j'ai reconnu des lieux, mais comment tu les as décrits, ça pourrait être n'importe quoi, n'importe où.
Ah,
donc,
ouais.
juste l'école, la seule chose que je décris pas textuellement, je trouve, c'est les personnages, parce que peu importe comment on décrit un personnage, dans notre tête, on leur donne un visage qui est précis et pour nous, ça va toujours rester ça. C'est pour ça aussi, souvent, l'adaptation cinématographique, on est souvent déçus parce qu'on se dit, non, dans ma tête, c'était pas ça. Fait que moi, on dirait que j'ai décidé libre à cours, puis je leur dis, vous leur donnerez la tête que vous voulez. Puis je suis tellement rendue là, mais oui, c'est vraiment les décors, je trouve ça important. Parce que quand on est capable de se situer autant dans une émission, bien, on est capable de se l'approprier. Parce que tout d'un coup, on se voit quasiment nous marcher dans la cuisine, puis revenir, puis fait que ça, c'était vraiment super important.
Ça représentait quoi pour toi de l'avoir dans tes mains, celui-là? Évidemment, tu avais de l'expérience, mais là, c'est un roman, c'est une histoire que tu as créée. C'est pas ton visage qui est dessus cette fois-ci. Il y a ton nom, mais il n'y a pas ta face. Ça représentait quoi de l'avoir dans tes mains?
Ça sera toujours quelque chose de fascinant parce que ça, c'est une chose très drôle. Puis je sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs qui sont comme ça, mais moi, je suis incapable de le lire. Je peux pas. On dirait que je l'ouvre et j'ai peur.
Tu n'es pas capable de le lire. Okay. Tu l'as lu en même temps tellement de fois pour le corriger.
Pour le corriger, on dirait que c'est peut-être le côté Miss Perfect qui est en moi, en fait. Mais si je l'ouvre puis que je vois, je me rappellerai, fais-le pour toi, la première version. Première page, j'ai vu une erreur ou quelque chose qui avait été changé. Puis j'ai fait « Oh non, je l'ai refermé », puis on dirait que ça m'a quand même un peu terrorisé parce que je sais que je vais trouver quelque chose à changer ou à modifier.
Ah ouais, non, c'est
sûr. Il y a des trucs que j'aimerais pas quand même. Fait que c'est vraiment de dire « Je laisse les gens l'ouvrir et l'apprécier », mais moi, on dirait que ça, c'est ce côté-là. Quand tu le reçois, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas concret. C'est un peu, encore une fois, comme la télé. Souvent, on attend que l'émission ait eu lieu pour que les gens nous donnent leurs commentaires. Puis justement, nous, ça fait 6 mois qu'on l'a tourné, puis on ne sait pas ce que les gens vont penser. On ne sait pas ça va avoir l'air de quoi. Nous, on va avoir l'air de quoi? Est-ce que la scène va être bonne? Est-ce que la prise qu'on fait était bonne? Et là, pour un livre, mais tant que je ne rencontre pas les gens en salon ou que je ne vois pas les gens le lire puis m'en donner des nouvelles, encore une fois, il est sorti, oui, mais tu ne sais pas ce que ça donne. Tu sais,
non, c'est
qui
sûr.
Est chez lui en ce moment et peut-être est rendu à la page 200 en train de lire l'histoire. Fait qu'il y a ce côté-là qui est un peu flou, qui me fascine toujours, mais c'est sûr que je pense le jour de la sortie, c'est ça, la veille, je l'ai comme réalisé. Puis on dirait que j'ai tellement d'ambition pour ce projet-là que tout d'un coup, c'est ça, j'ai eu des petites craintes, des peurs. Puis tu te dis, est-ce que ça va être au niveau, c'est à la hauteur des autres, à la hauteur des autres projets? Fait que c'est tout le temps, c'est stressant. Même si on travaille de chez nous. Puis c'est aussi, je pense, le plus stressant là-dedans, c'est qu'on travaille face à nous-mêmes. On est devant notre ordinateur. Moi, en fait, devant un cahier parce que j'aime mieux écrire à la main.
OK.
Donc, tu vois, je change un peu la donne, mais devant mon cahier, il n'y a personne d'autre que moi qui pense à l'histoire. Il n'y a personne d'autre que moi qui s'imagine. Et je me dis, est-ce que les gens vont comprendre ce qu'il y a dans ma tête? Ça, ben c'est ouais, toujours complexe. Puis à la fin, quand tu le recorriges, puis il y a quelqu'un qui t'a donné son avis, il reste que devant ton ordinateur, encore une fois, il n'y a que toi. Tu arrives sur un plateau de tournage, il y a quelqu'un qui va te donner une réplique. Il y a quelqu'un qui va te donner, comme je dirais en anglais, un feedback, un retour sur l'émotion que tu viens de vivre. Tandis que quand tu vis tes émotions seules, c'est dire, est-ce que à travers une page de livre, les gens vont la ressentir comme je l'ai ressenti? Et ça, par exemple, il n'y a rien, à part les mots, il n'y a rien qui me l'assure. Donc, c'est cette crainte-là, je pense, qui est plus grande.
Et ça vit en dehors de toi. Les gens vont l'acheter n'importe quand. Ils vont le lire à n'importe quelle heure de la journée. Et toi, tu ne le sauras pas, sauf si on t'écrit pour t'en parler.
Exact. Là.
Donc, il y a ça aussi qui est particulier. C'est que ce que tu as écrit, ce que tu as envoyé chez l'éditeur, ça va avoir une vie extérieure à toi.
Oui, puis étrangement, dans tout ce que je fais en ce moment, que ce soit au niveau du doublage, que ce soit au niveau du cinéma, de la télévision, de l'écriture, c'est des choses qui sont là pour rester. Donc, c'est des choses qui vont continuer de vivre. Puis c'est ça que je trouve vraiment beau. C'est que maintenant, par exemple, il y a des rediffusions de Tactique. Mais Tactique, j'ai commencé, j'avais 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23 ans. Et les gens me disent, Dali, c'est mon personnage préféré, t'es ma préférée. Puis je fais, mon Dieu, t'étais pas née quand ça a commencé. Fait que je vois les jeunes, justement, tu sais, aimer Dali, s'approprier le personnage, dire, je m'identifie à elle. Puis je fais, mais moi, je m'identifie plus parce que j'ai tellement vieilli.
Ah ouais, non,
fait que c'est de voir ça, justement, que ça perdure parmi les générations, que des parents disent, mes enfants l'écoutent maintenant, mais avant, c'est moi qui l'écoutais. OK, là, c'est là que tu réalises comment la vie, ça avance. Puis tu sais, avoir 16 ans de carrière derrière moi, alors que j'ai 23 ans, c'est là que tu fais, OK, c'est sûr que quand tu arrives sur une déclaration, vu combien de temps vous effectuez, tu sais, vous êtes dans le métier, 16 ans, ils te regardent, ils font, hein? Tu sais, il y a ce concept-là aussi que tu réalises que le temps, ça passe vite. C'est là aussi que tu vas en faire le plus possible, puis créer le plus possible pour que justement ça te suive.
Frédéric, on a parlé un peu de Miss Parfaite, mais Maya, son entourage, qui sont-ils? Décris-nous un peu les personnages qu'on retrouve dans ce livre-là.
J'aime ça. En fait, Maya, c'est une petite fille de 12 ans qui, physiquement, c'est sûr que je me suis un petit peu servi de mon expérience personnelle, fait que c'est une petite fille. Son entourage, c'est ce que je trouve très beau, c'est que ses parents, c'est des parents un petit peu plus âgés parce qu'elle a une grande sœur qui a 23 ans.
Okay.
Donc, elle a 10 ans de différence avec sa sœur, ce qui amène peut-être un petit côté, je trouve, charmant parce que la grande sœur a une vie un peu plus adulte, mais permet à sa petite sœur justement de se retrouver. Quand ça va moins bien avec les parents, c'est un peu comme sa confidente, sa meilleure amie. Donc, Coralie, sa grande sœur, et ses deux parents, qui, comme parce qu'ils sont un peu plus âgés aussi, le concept, c'est qu'il y a eu des complications à la naissance de sa sœur. Donc, Maya, elle, quand elle est arrivée, c'était pas un bébé espéré. Il y a eu des complications à la naissance, puis les parents ont eu vraiment peur. Donc, il y a eu crise d'épilepsie. La jeune fille, Coralie, a dû avoir des traitements d'orthophonie, ergothérapie, justement, pour rattraper le retard qui a été occasionné. Et ses parents, c'est par pur hasard qui, à l'aube de la quarantaine, ont appris qu'ils étaient enceintes à nouveau d'une petite fille qui est Maya. Donc, c'est une petite surprise, une petite surprise sur le Sunday. Sauf qu'en même temps, ça a réveillé des angoisses. Donc, l'angoisse du parent qui veut peut-être être un peu trop surprotecteur, vu que justement, il a vu ce qui s'est passé avec la première, qui veut éviter des erreurs, qui justement, en étant un peu plus vieux, est moins dans la génération du parent.
Ouais.
Donc, le fait d'avoir 40 ans, même elle a dit, tu sais, c'est rare que j'arrive à l'école. Puis dire au primaire que mes parents ont passé la quarantaine, on dirait que c'était comme un peu gênant parce que tout le monde, mes parents avaient 30 ans. Moi, ils étaient plus vieux, puis elle a dit, j'ai l'impression qu'ils me comprennent moins justement parce que pour eux, c'est évident que le téléphone, c'est Satan. Il faut pas, tu sais, à la table, tu ne seras pas comme les autres jeunes de ton âge, tout le temps avec ton téléphone en train de texter. Mais en même temps, c'est aussi dire qu'ils sont très protecteurs, oui. Mais il donne des bonnes leçons de vie, mais elle a besoin peut-être de liberté. Puis ses parents sont tellement fiers d'elle. C'est la petite fille justement parfaite. Elle dit, est-ce qu'ils savent à quel point ça me met une pression? Puis ça commence comme ça. Ça me met une pression de tout le temps devoir l'être. Puis cette petite fille-là arrive à l'école au secondaire en se disant, moi, je suis pas populaire. J'ai pas vraiment d'amis. Je suis réservée. Je suis très gênée. Ils partent en camp d'intégration et cette puce-là arrive et évidemment se fait laisser mettre de côté par une de ses amies et se retrouve assise avec une enseignante. Elle dit, en partant, tout pourrait être aimé. Je vais avoir l'air de la chouchou des profs. Je suis assise avec une enseignante et cette enseignante-là lui donne une superbe leçon de vie en disant, tu sais quoi? C'est pas le premier trajet en autobus qui va déterminer toute ton adolescence. Parce qu'elle dit, moi, il fut un temps, j'étais assise avec le loser de l'école et aujourd'hui, ça fait 35 ans que je suis mariée avec lui. Alors souvent, c'est ce que j'aime, c'est que les adultes vont tout le temps donner une petite leçon de vie, mais que le personnage de Maya est beaucoup plus vieux que son âge. C'est une personne qui pense beaucoup. Je trouve que c'est important de parler justement. Souvent, quand on parle des livres jeunesse pour filles, surtout, on dit qu'ils ont une meilleure amie, ils ont une BFF, puis quand ils reviennent, ils ont tout le temps quelqu'un à qui parler, puis il y a des questions de gars. Puis au contraire, elle, c'est une petite fille un peu tomboy, qui n'a pas de meilleure amie en particulier, qui aime lire, qui aurait peut-être aimé mieux ne pas se faire autant d'amis parce que ça se retourne un peu contre elle, parce que justement, elle devient populaire un peu malgré elle, parce qu'elle a l'intérêt des garçons, parce qu'elle est dynamique, elle est gentille, mais elle ne cherche pas l'attention. Et c'est ce que j'aime de ce personnage-là, c'est que pourquoi il écrit ce livre-là, c'est que la jeune fille, elle a 12 ans, puis elle se dit, moi, j'ai l'impression, malgré que j'ai des amis, il n'y a personne qui me comprend vraiment. Alors, je vais écrire ce livre-là parce que ça va me faire du bien. Puis si jamais, finalement, je parle à quelqu'un, ben tant mieux, toi, peut-être que tu vas te reconnaître. Au final, si ça fonctionne pas puis j'ai jamais publié de livre, ben je me serais parlé tout seul pendant 10 ans de ma vie. Alors, c'est ce que je trouve beau, puis justement qu'elle ait des réflexions, c'est de dire, nous, quand on prend des décisions, on réfléchit beaucoup. On se parle dans notre tête. Ben c'est ça qu'elle fait. Elle se met à parler, fait qu'elle fait beaucoup de parenthèses, elle est très énergique, puis elle amène ce petit côté-là, justement, de dire, pourquoi je peux pas juste être amie avec des gars? Elle pose des questions, puis elle y trouve des réponses, puis souvent, sa grande sœur, je pense qu'elle amène ça. Puis ce que je trouve le plus beau, puis dont j'ai été le plus fière, puis même en l'écrivant, je pleurais, c'est qu'il y a un chapitre complet qui est sur vraiment la relation parentale après une chicane, après que les parents l'aient grondée parce qu'elle rentrait un peu plus tard. Et il y a la confrontation parent-enfant qu'on va tous avoir dans notre vie une fois, au moment où on demande d'être un peu plus indépendant, puis qu'on se dit là, à quel moment c'est trop ou pas assez. Puis ce que j'ai trouvé beau, c'est de dire que cette jeune-là, elle réalise qu'elle fait des erreurs, elle a eu des jugements, mais qu'à l'inverse, elle va oser confronter ses parents. Puis que les parents vont avouer un peu de leur tort. Parce que je trouve ça tellement important de dire, moi, mes parents m'ont donné cet exemple-là. Si eux sont capables d'avouer leur tort, ben ça me permet, moi, de comprendre que moi aussi, je devrais le faire. Et ça me donne l'exemple de dire, c'est correct si t'es pas parfait. Mais l'important, c'est de s'excuser quand c'est le temps. Puis de passer à autre chose. Puis de le faire dans l'amour. Fait que c'est d'amener ça aussi, la relation parent-enfant, que je trouvais tellement belle et importante. Puis je pense que chaque chapitre amène un personnage qui amène une autre leçon de vie. Que ce soit la manipulation à l'école, ça, il y en a toujours, surtout à cet âge-là. Que ce soit, oui, les premières relations, les gens qui nous intéressent, que ce soit justement l'intimidation, protéger les autres. Parler du fait qu'il y a une de ses bonnes amies qui, au début, mais même elle a dit non, c'est une fille rejet, je l'aime pas, elle veut trop être notre amie. Puis à la fin du livre, elle réalise peut-être tranquillement que ben, cette personne-là qu'elle a elle-même jugée, a beaucoup plus à lui apporter qu'elle pensait. Mais quand tu juges à la couverture de quelque chose... Ouais. Fait que c'est tout le temps d'amener ce côté-là. J'amène tout le temps le petit côté adulte, mais je le fais de façon subtile pour que même le personnage principal ait des défauts. Puis ça, c'est important, puis qu'elle en soit consciente, qu'on lui remette en plein visage des fois qu'elle en a, mais qu'elle les accepte, puis qu'elle les surmonte tranquillement.
La première fois qu'il y a des gens autour de toi qui le lisent,
oui,
c'est comment pour toi? Parce que là, tout à l'heure, je disais que ça vit en dehors de toi, mais là, il y a des gens qui le lisent concrètement dans la même pièce que toi, voire près de toi. Jérôme, ton père, que tu mentionnais tout à l'heure, ces gens-là l'ont lu et tu étais consciente qu'elle allait te donner un feedback et que tu allais avoir leur opinion personnelle, même si des gens près de toi. Est-ce que c'est plus épeurant quand c'est eux qui lisent?
Je dirais que c'est plus épeurant quand c'est des gens juste un petit peu plus loin. Parce que je sais que les personnes très, très proches de moi me reconnaissent mon style de langage, ouais, reconnaissent... Fait qu'ils vont avoir une façon de dire, OK, je vois Frédéric. Je sais que c'est vrai. Tu sais, je t'entends parler. Fait qu'ils m'entendent, eux. Mais c'est plus quand c'est des gens, justement, que je connais moins. Là, quand je demande à quelqu'un de le lire puis qu'ils sont juste à côté, souvent, je me sauve. C'était un peu comme écouter Unité 9 à l'époque, quand il y avait des scènes un peu plus différentes ou un peu plus intenses. Je m'en allais. Je pouvais pas. On dirait que je suis pas capable de me projeter puis de me dire que c'est moi. C'est bizarre. Ça fait comme une drôle de vision. Autant de la télévision, tout ça. Des fois, tu te regardes, tu dis, OK, je me reconnais. Puis les moments où tu te reconnais pas, où tu te dis, OK, il y a quelqu'un d'autre qui se l'approprie, moi, ça m'a toujours stressé un peu.
Parlons de Fais-le pour toi, cette belle aventure qui a commencé en 2017, en fait,
oui,
qui a été lancée en 2017. Tu as dit que ça avait pris 7 ans de l'écrire, mais on a pu le lire à partir de 2017. Comment c'est arrivé, Fais-le pour toi, ce désir-là d'accompagner les ados dans cette période-là difficile de la vie?
Je dirais que c'est parce que j'étais une ado qui aurait peut-être souhaité être accompagnée.
Okay.
Je pense que c'est parti comme ça. J'avais 14 ans quand je l'ai commencé. En fait, c'est ça qui est très drôle. Puis c'est
à 14 ans, tu voulais parler aux autres ados?
Oui, parce que j'étais tannée que ce soit les adultes qui nous parlent.
Okay.
Puis, d'une certaine façon, je me disais tout le temps, pourquoi il n'y a personne qui dit ce qu'on pense alors qu'on se pose toutes les mêmes questions? Et je me disais, peut-être que moi, je comprends. Puis c'est ce qui est beau, c'est ce pourquoi ça a pris du temps, parce que justement, j'aurais eu peut-être besoin de ça. Que gars ou fille à cet âge-là, puis c'est ce que je réalisais, c'est qu'on se posait toutes les mêmes questions, mais on ne savait pas où aller chercher les réponses. Puis souvent, c'était ça. J'ai dit, pourquoi on ne peut pas s'identifier à quelqu'un? T'sais, je regardais la télé, je ne trouvais pas quelqu'un qui m'identifie. Je regardais les livres. C'était souvent justement des livres où il y avait beaucoup de meilleurs amis, puis tout ça. J'ai dit, pourquoi je ne peux pas m'identifier à rien? Et j'étais sur le plateau de tournage de Tactique. Je me rappellerai toujours, j'avais appris mes textes, puis j'avais une pause qui a duré comme... J'avais 4 heures de pause, on était en extérieur. Puis souvent, quand on fait des tournages extérieurs, c'est long. Toutes les scènes prennent plus longtemps, justement à cause de la température, les changements, ce qui pleut, ce qui fait beau. Et j'ai eu 4 heures de pause, puis je me suis mis à écrire. Puis à écrire tout ce que je pensais, puis toutes les questions que je me posais à 14 ans. c'est resté là. J'avais comme mon squelette décrit déjà. C'est resté là pendant quelques années. On dirait que avec les devoirs, avec les tournages, j'ai pas trouvé le temps, ni peut-être le désir de l'écrire ou le bonheur, le besoin. Et à 18 ans, en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de changements dans ma vie. Autant, j'avais 19 ans, je dirais. Et là, le personnage en T9, Léa, est décédée. Donc, tout d'un coup, je me retrouvais, j'avais plus d'emploi, ce qui n'était jamais arrivé avant. Comme j'allais à l'école et j'étais trop occupée avec les tournages, il a fallu que j'arrête l'école aussi. J'ai vécu un décès dans ma famille de ma mamie qui est mon idole, qui était ma deuxième maman. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chamboulements. Puis, je savais plus vers quoi me tourner. Puis, j'ai réalisé qu'à 19 ans, mais je me posais les mêmes questions qu'à 14 ans en relisant le squelette. J'avais toujours pas eu de réponse. Je l'ai cherché encore. Je me dis, pourtant, quand tu sors du secondaire, on dirait que tu penses que la vie devant toi s'étale. Ah puis tout d'un coup, j'en suis en R5, je vais savoir où je m'en vais, puis je vais être correct. Puis finalement, c'est à 19 ans que j'ai dit, OK, non, je suis encore plus perdue que quand j'avais 14 ans. C'est pas normal. Et c'est là que je me suis dit, OK, si moi j'en ai besoin là, à quel point les jeunes en ont peut-être besoin aussi. Et comme j'ai vécu plusieurs choses, mes amis l'ont vécu aussi, puis c'est ce que je voulais dire. Moi, je n'ai pas la vérité absolue. Fait que là-dedans, j'utilise des témoignages aussi d'amis, de gens que je connais. J'ai fait beaucoup de conférences dans les écoles. Et c'est ce qui revenait souvent. C'est à quel point ces jeunes-là sont intelligents, sont intéressants, ils ont quelque chose à dire, mais ils ne savent pas comment le dire. Puis souvent, tu sais, je dis à 15 ans, moi, ma mère souvent m'a demandé qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné ou que tu te cherches comme ça? Mais comment tu veux expliquer comment tu te sens à cet âge-là si toi-même, tu ne te comprends pas? C'est pas évident. Fait qu'avec Fais-le pour toi, c'est vraiment ça que j'ai voulu faire. C'est que j'ai voulu créer un peu comme... Je voulais créer une plateforme, un peu quelque chose de partage pour que justement les gens puissent l'ouvrir, puis autant que le parent, que le jeune puisse le lire et comprendre des choses sur une génération ou sur l'autre. Puis j'ai le plus bel exemple, en fait, c'est une de mes nièces à qui on l'a offert en cadeau. Et j'ai appris dernièrement que sa mère, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait vu le livre de sa puce, elle faisait le ménage, puis elle a vu que la petite avait mis plein de post-it à plein d'endroits différents. En disant, il faudrait que je parle à mon frère, parle à mes parents. Ça, je me pose des questions. Fait que ce que la maman a fait, c'est qu'elle est allée l'acheter elle aussi. Elle a mis des post-it aux mêmes endroits. Puis maintenant, quand ils se posent des questions ou qu'ils s'entendent pas bien, ils vont voir, ils ouvrent le livre, puis ils s'en parlent. Fait que je me dis, je pensais jamais que ça ferait ça. Je me disais, tu sais, les jeunes, ça va peut-être les aider, mais c'est surtout que les parents disent, des fois, nous aussi, on a besoin de ressources. Puis c'est ce que j'ai remarqué le plus, c'est que c'est souvent les grands-parents puis les parents qui vont l'acheter, le lire avant pour avoir des indices, des trucs, puis prêter à leur enfant par la suite en disant, bien, je suis de leur côté aussi. Fait que je pense que c'est d'aider à établir la communication aussi entre les deux générations que je trouve vraiment importante parce que ça se perd peut-être un peu. Puis parce que justement, c'est tellement beau de parler du même sujet, de ne pas avoir le même langage justement parce qu'on se dit, bien, nos parents, c'est nos parents, fait qu'ils ne comprennent pas. Parce que ça, c'est une thématique qu'on aura tous, c'est nos parents. Là, j'étais en train d'écrire le Fais-le pour toi deux, puis je fais un chapitre complet sur les parents parce que là, il faut vraiment parler. Je dis, pour un enfant, ton parent sera toujours symbole d'autorité, sera toujours... La personne qui, dans ta tête, va être pas d'autre titre que papa ou maman. Mais vous, en tant qu'adulte, vous, en tant que parent, vous restez des individus, vous restez des personnes, vous restez un couple. Fait, essayez d'expliquer tout ça aux jeunes pour que, justement, attendrir cette relation-là quand tu dis « Ah, mais mes parents ne me comprennent pas, ils ne m'aiment pas. » Non, c'est plus que ça, c'est d'aller voir vers ça. Et à l'inverse, de dire aux parents « Ton jeune, là, il est intelligent, il est capable, puis c'est correct s'il tombe. C'est correct s'il fait des erreurs, il faut qu'il en fasse. » L'important, c'est de mettre un peu des barèmes, d'essayer de faire des lignes, d'essayer de tracer le chemin. Mais une fois sorti de la maison, tu peux pas décider ce qu'il va faire. C'est ce qui est arrivé, comment on s'est parlé, tout ça. Fait que c'est cette communication-là que je trouvais super importante. Puis celui-là, je dirais que le premier, c'est sûr que ça a été libérateur pour moi parce que même, des fois, je le dis, c'est fait là pour toi. Puis à la fin, je dis, je l'ai fait pour moi. Puis même encore aujourd'hui, je fais, ouais, faudrait que je me rappelle parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à faire les choses pour soi et faire les choses pour plaire aux autres, pour essayer d'avoir l'approbation des autres. C'est assez facile, merci.
Tu as commencé à travailler à 7 ans dans ce milieu-là. Oui. Est-ce que tu es devenu un adulte beaucoup trop vite que la normale, tu penses? Parce qu'évidemment, entouré d'adultes, bien sûr.
Je dirais que ça a été un bonheur de devenir... J'ai été traitée en adulte très jeune, ce qui est très bien. En plus, j'ai un petit frère autiste, donc j'ai été maman très jeune dans la vie.
Tu as été adulte beaucoup plus vite que plus.
J'ai eu une expérience, c'est ça, je sors de la norme, vraiment. Mais je pense que c'est la plus belle chose du monde. Ce que je sais, par exemple... C'est que l'ayant vécu à 7 ans, aujourd'hui, je peux parler aux jeunes qui, justement, ont 13, 14, 15 et veulent déjà être des adultes en leur disant, tu sais quoi?
Sois un ado.
Sois donc un ado. Va donc glisser dehors, puis jouer, puis tiraillez-vous, puis gardez ce petit côté-là, ado, jeune, enfant même. Puis même à 18, 19, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai fait, oh mon Dieu, je suis un grand bébé, dans le fond. Parce que je me suis tellement pris pour une adulte longtemps parce que j'étais dans un monde d'adultes que quand arrivaient certaines situations, je dis, mon Dieu, OK, ça, adolescente, je ne l'ai pas vécu. J'étais tellement, j'avais des responsabilités, j'étais sur un plateau de tournage. Les tournages de tactique se faisaient 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. On va à l'école du lundi au vendredi. Donc, déjà, en partant, j'allais à l'école peut-être une fois semaine. Moi, j'étais très, très bonne à l'école. Puis, si j'avais en bas de 80 %, c'était le drame. Donc, je me mettais une pression incroyable. Et pourtant, alors que c'est pas les notes l'important, mais c'est ce que tu apprends. Mais ça, on le comprend pas nécessairement sur le coup. Ensuite, j'étais sur les plateaux de tournage. Les tournages, c'est de 6h à 6h. Donc, le matin, à 5h du matin, j'étais debout peut-être pour étudier mon texte, mais aussi étudier mon examen de français que j'allais faire sur le plateau entre deux scènes. Il y avait ce côté-là de la pression de performance qui était forte, mais que j'aimais. Mais ça a aussi fait que quand, justement, j'avais moins de tournage, puis tout d'un coup, j'étais, vu que j'étais plus à l'école, j'avais pas de devoirs, pas de travaux, il y a une discipline que tu cherches tout le temps à avoir, puis tu perds. À un moment donné, il y a comme une petite mini-rébellion. Fait que je pense que de ce côté-là, il y a la Frédéric à 20 ans qui a fini finalement le livre « Fais-le pour toi » qui a dit « C'est là que j'en ai besoin » parce que c'est là tout d'un coup je redécouvre l'adolescente que j'étais. Je la revois puis je dis « Hey, bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. T'es encore là. » Elle faisait encore partie de moi puis elle avait besoin d'être prise en main un peu d'une certaine façon. Mais en même temps, je ne changerais tellement jamais ça. Il y a ce côté-là de la maturité que oui, j'ai pris très tôt. Puis il y a beaucoup de gens qui me parlent, ils vont me dire « Ah, tu fais pas ton âge, t'es plus vieille que ton âge. » Je fais « Oui, mais en même temps, je garde la petite spontanéité de mes 23 ans, même si souvent, mes amis en général ont entre 30 et 40 ans. Fait que c'est sûr qu'il y a une petite différence. Mais c'est de trouver ce côté-là. Puis oui, j'ai vieilli vite, mais si ça peut aider plus de gens à rester enfant plus longtemps, pourquoi pas? Je trouve que c'est un bon compromis.
À l'arrière de Philippe, pour toi, il y a une photo avec ton frère.
Oui!
Philippe Olivier, qui est autiste. À quel point il est important dans
c'est l'amour
tout ce
de
processus-là?
Ma vie. Ça, c'est... Mon petit frère, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Je trouve ça beau parce que c'est des choses dont on parle pas beaucoup nécessairement. On commence à en entendre un peu plus parler. Mais mon petit frère, c'est ça, c'est spécial. J'ai-tu dit que c'est spécial?
Ouais.
Il a cette magie dans les yeux. J'en parle. Moi, je sais, dès qu'on me dit filou, on dirait que je m'énerve, je m'excite, je suis heureuse. C'est du bonheur, c'est du soleil. Parce que il a, selon moi, la recette du bonheur inculquée en lui étrangement, alors que c'est lui qu'on pourrait pointer du doigt parce qu'il est différent. C'est lui qu'on pourrait pointer du doigt parce que il a un handicap, c'est un petit garçon autiste, alors que pourtant, lui, mon Dieu, qu'il a l'affaire. T'sais, il va se lever le matin, il va être de bonne humeur. Il va se coucher le soir, il va être de bonne humeur. Ce qu'il fait, il fait des câlins. Il aime les gens. On est très, très chanceux dans la malchance, d'une certaine façon, parce que mon petit frère, c'est quelqu'un qui aime aimer, qui aime faire des câlins. Il n'a pas peur du toucher, au contraire. Puis, il a tellement à nous apprendre. Souvent, je vais en conférence dans les écoles, puis j'aime parler justement de cette différence-là, mais aussi des gens en disant « Tu rirais jamais de lui parce qu'il est donc bien mignon, tout ça, mais pourquoi entre vous autres, vous osez rire de vous, puis vous intimider, vous insulter? » Au final, la différence, qu'elle soit flagrante ou longue, on la ressent tous. On a tous l'impression d'être différents par moments ou d'être pas à notre place ou que justement, personne ne nous comprend. Mais lui, même s'il n'est pas à sa place ou justement que dans un groupe, c'est sûr qu'il sort du lot. T'sais, c'est sûr quand il arrive puis il tape dans ses mains puis il fait des câlins. Tout d'un coup, tu vois qu'il y a une différence, mais peu importe qui t'es, peu importe quel genre d'humain t'es, peu importe ton âge, peu importe ta taille, peu importe ce que t'as fait dans ta vie, il va jamais juger à l'apparence. Lui, il va aimer pour aimer. Il va dire « je t'aime » quand ça y tente. Il se mettra pas de filtre par peur d'être jugé, par peur d'avoir une pression des autres. Puis je trouve ça tellement beau de dire que justement, il vit dans le moment présent. Il a comme compris ça, t'sais, c'est inné en lui. La candeur, la naïveté, l'amour pour les autres, la gentillesse. C'est toutes, je pense, des valeurs qu'on veut garder dans nos vies, mais on est tout le temps en conflit intérieur, nous, à se dire est-ce que c'est correct, est-ce que les autres vont approuver, est-ce que... Lui, c'est non, c'est pas ça. C'est si, par exemple, je me rappellerai tout le temps, on est allé... Lui, ce qu'il aime, c'est les films de Disney. Ben je vais donner le conseil, la même chose, à des jeunes de 12 ans. C'est le fun, écoutez, t'as le droit. C'est pas bébé, non, ça te fait du bien, c'est ça qu'il faut. Même chose, on va au cinéma, justement, puis on écoute... Lui, cinéma, popcorn, jouer à des jeux vidéo, ça le rend heureux. C'est tellement simple. De dire, Philou, on s'en va jouer au bowling. Là, il fait partie d'une ligue de bowling. Je suis fière. Mon frère a une ligue de bowling avec des gens qui vont de 20 ans à 60 ans. Je le vois aller à l'école. Il va. Ça s'appelle la Libellule.
Okay.
C'est un centre pour adultes, justement, avec déficience de toutes sortes, handicap. Et ses mentors, puis je trouve ça tellement beau, ses mentors à lui sont deux personnes, dont un homme qui est un peu plus vieux, une cinquantaine d'années, qui justement, qui dit, oh, Philou, il est où avec son sourire? Puis là, il est super content de le voir. Puis l'autre, c'est un jeune. Vingtaine d'années, un petit peu plus vieux que lui, qui est trisomique. Et là, je vois mon frère arriver là, puis c'est comme ses enseignants. C'est eux qui le guident, puis je dis, mon Dieu, que l'entraide est belle. Puis je vois ça, tu sais, ils viennent tous me voir, ils font les câlins, puis j'arrive, puis je suis comme la sœur aussi qui a été à la télévision, puis ils me connaissent. Je suis allée là fois, puis j'ai tellement ri. J'ai eu le droit à des câlins, je me suis fait crouser d'aplomb. Puis ils me regardaient, puis c'était tous des petits gars, puis là, je les voyais avec leurs petits yeux, je faisais, hey, toi, salut, tu sais, je connais le concept, mais je trouve ça tellement beau, je trouve tellement qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. Puis moi, c'est justement d'en voir, c'est des adultes qui ont 50aine d'années, qui vivent en résidence, il y en a qui vivent seuls. Mon frère, il vivra jamais seul. Mon frère, c'est un grand bébé. Mon frère, c'est ça, c'est vraiment, il va rester un enfant toute sa vie, ce qui fait que je dis un peu, j'ai vieilli tôt, parce que j'étais une maman, j'ai tout le temps été une deuxième maman, puis ça sera toujours le cas aussi. Mais je pense qu'on a tellement, on dit souvent que ces jeunes-là, on leur apporte beaucoup. Tu sais, c'est dur pour un parent qui a un enfant différent, mais si on savait à quel point eux, ils nous apportent dans la vie en général. Puis c'est ça, mon frère, c'est ça, je le dis tout le temps, ça, ça a toujours été l'amour de ma vie. Moi, jeune, puis littéralement, j'avais 4-5 ans, je dis, moi, un jour, je vais me marier avec mon frère. Tu sais, parce que, c'est, il n'y a jamais rien qui va nous séparer, parce qu'on s'aime, puis parce que c'est ça, parce qu'il y a cette symbiose-là. Est-ce que, quand même, malgré tout, j'ai déjà eu honte, j'ai déjà eu peur, j'ai déjà trouvé que c'était trop de pression, j'ai déjà été jalouse de mes amis qui avaient des frères et sœurs dits normatifs, oui. Et ça aussi, je pense que c'est important de le dire parce que on parle beaucoup des parents. Des parents des jeunes autistes, de la vie, de ce que c'est d'avoir un enfant toute sa vie. Mais on parle rarement du frère et de la sœur qui vit cette pression-là. Du stress qu'il y a peut-être entourant ça. Moi, avec mes parents, c'est clair. Le jour où mes parents à la retraite, tout ça, un jour, il va venir avec moi. On vient à deux. Fait que ça a tout le temps été le cas. Mais il y a des jeunes pour qui c'est une pression. Il y a des parents, des fois, qui vont mettre peut-être trop de pression sur le frère ou la sœur de dire « tu vas garder, tu vas être responsable toi aussi ». Puis je pense que ces jeunes-là ont besoin de comprendre que la fratrie, c'est important, mais qu'eux aussi ont le droit de se développer en tant que jeunes adultes. Ils ont le droit d'avoir leur vie à eux. On doit de vouloir devenir un peu plus indépendants, ne pas avoir cette responsabilité-là non plus. Puis c'est ce que je dis un peu aussi dans Fais-le pour toi. C'est pourquoi, au début, moi, je voulais vraiment que ce soit sur la couverture. Là, c'est sûr que parce que je suis comédienne, ils voulaient que ce soit moi. Mais avec mon frère, je trouvais qu'il y avait ça. C'est qu'il amène le petit gars. C'est pas écrit dans son visage. Regardes en arrière, tu vois, il est avec un petit garçon qui fait un grand sourire. Puis il est de bien de bonne humeur. Puis sinon, ben, je trouve que c'est ça qui amène justement, c'est la valeur de dire. Mais oui, moi aussi, même si c'est l'amour de ma vie, puis je le trouve beau, merveilleux, j'ai déjà eu honte. Oui, il y a des fois où j'ai dit « chut, filou ». Là, maintenant, je dis pas « chut », je ris avec lui. Parce que j'apprends que c'est correct, parce qu'il y a ça, ce non-filtre-là que moi, des fois, j'aimerais avoir. T'sais. Fait que c'est la beauté de la chose. Puis c'est de présenter, c'est quoi aussi? Derrière moi, je parlais avec une fille de mes amis qui a 8 ans, puis elle me dit « ah, mais j'ai eu peur de ton frère. » T'sais, parce que mon frère arrive, il va vouloir faire des câlins. Mais plus l'enfant est petit, plus il va y aller doucement. Fait que s'il fait un câlin à quelqu'un d'adulte, ça va être sûr.
Il est rendu
à 22 ans, là, c'est un homme. Mais quand c'est un petit exemple, c'est avec mon neveu qui a 2 ans, c'est tout du bout des doigts, un petit bisou sur chaque joue, puis une petite flatte dans le dos. Puis là, tu fais, mon Dieu, il comprend ça. Puis quand plus les enfants sont jeunes, plus ils aiment mon frère parce qu'on dirait qu'ils ont la même mentalité. Ils vont rire parce que mon frère rit, mon frère va rire parce qu'il rit. C'est beau. Puis quand arrive 8, 9, 12 ans, souvent, c'est la peur de l'inconnu parce qu'on a peur de ce qu'on connaît pas. On a peur de ce qu'on peut pas contrôler. Puis c'est sûr que maintenant, jeune adulte, je me dis, un jour, il va avoir 45 ans, puis il va agir encore comme ça. C'est sûr qu'il y a une pression, mais je dis là, il y a 22 ans, devant un enfant de 8 ans qui arrive, puis il va rire fort, il te parlera pas nécessairement, mais il va te faire un gros câlin. C'est sûr qu'il y a un petit stress. Puis j'ai expliqué, puis j'ai dit, mais tu sais quoi? Moi, mon filou, il est chanceux parce qu'il a un beau pouvoir magique, c'est que à travers ses yeux, quand tu le regardes, puis tu lui parles, puis il dit quelque chose, mais peu importe ce qu'il va te dire, tu vas voir qu'il va sourire tout le temps. Même dans ses yeux, ça va sourire, puis tu vas voir que ça va jamais être méchant ou jamais stressant. Puis là, la puce, elle m'a regardé, puis elle a fait « Ah! J'avais pas vu ça comme ça! » Je dis « Non, c'est sûr! » Mais je dis « La prochaine fois qu'il va vouloir te faire un câlin ou taper dans ses mains, mais c'est peut-être parce qu'il est content, c'est sa façon à lui de dire bonjour. » Je dis « Tu sais, toi, tu dis bonjour, puis du monde qui vont parler en anglais, qui vont dire « Hi! » Il se serre la main. Je dis « Toi, tu serres-tu la main quand tu rencontres quelqu'un? » Elle fait « Non. » Je dis « Ben lui, il fait un câlin pour dire bonjour. Ah! » OK. Fait que c'est tranquillement d'apprendre aux jeunes et aux parents aussi. Parce que ça, je le dis, il y a encore des gens qui ne comprennent pas ça. Mm-hmm. Dans Fais-le pour toi, j'en parle, puis je donne des merveilleux exemples de gens qui ont eu des réactions très fortes. Puis moi, en tant qu'enfant, ça m'a tellement blessée. Parce que si moi, mon frère, il ne remarquera jamais ça. Lui, il est heureux. T'sais, tu pourrais l'insulter, il va continuer de rire. Mais moi, les gens autour, la famille, on le remarque. Fait qu'à ce niveau-là, c'est sûr que moi, plus jeune, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai écrit des livres. En fait, c'est pour ça que j'ai écrit des livres pour aider les autres. C'est que j'ai tout le temps été un petit soldat. Tu sais, j'allais à la guerre pour mon frère, il peut pas se défendre. Fait qu'il a besoin de quelqu'un pour le faire pour lui. Fait que j'ai peut-être un peu, c'est ce qui a créé le fait que j'ai voulu commencer à écrire des livres pour les jeunes. Parce que si je peux les aider puis me battre pour eux, alors qu'à l'école, il y en a peut-être pas qui le font. Parce que c'est aussi, c'est stressant à l'école. Tu sais, t'aimes mieux être dans la gang qui pointe du doigt être celui qui est tout seul, qui se fait pointer du doigt. Donc, s'il n'y a personne qui prend ta défense, mais que tu as l'impression qu'il y a une fille dans un livre qui la prend d'une manière ou d'une autre parce qu'elle te parle et qu'elle te fait sentir moins seule, je trouvais qu'il y avait ce petit côté-là très important. Puis ça, je le dois à mon frère. Puis si je peux, sans le vouloir, lui donner une voix alors qu'il n'y en a pas, lui donner une présence sociale alors qu'il ne pourrait pas le faire tout seul. T'sais, sur mes réseaux sociaux, le trois quarts des publications que je fais, c'est lui. Parce que je dis, moi, je souris, c'est le fun. Mais lui, il sourit, c'est contagieux. Il y a quelque chose de... Ouais.
As-tu l'impression que les frères, sœurs d'enfants différents, autistes dans ce cas-ci, doivent avoir une conversation avec leurs parents à un moment donné, dire, la maison, évidemment, tourne autour de cet enfant-là qui a des besoins précis, mais j'existe.
Ah oui, mais c'est drôle.
As-tu eu, toi, cette conversation-là? Tu as eu besoin de la faire?
Oui, okay. Je suis vraiment de le faire, mais je l'ai eu très tard parce que c'est vraiment plus quand j'ai commencé, justement, j'étais moi sur les plateaux de tournage, puis j'écrivais, donc j'étais à la maison. Puis là, tout d'un coup, je devenais comme une gardienne.
Ah ouais?
Disponible. Je dis oui, mais j'écris, il faut que j'écrive, ça reste un travail.
J'ai un travail,
mais là, ton frère, tu sais, cette conversation-là, c'était pas si complexe. Sauf que je dirais que la conversation aussi à avoir, c'est oui, j'existe. Puis étrangement, je pense que je l'ai réalisé plus tard, mais j'ai commencé à être comédienne, j'avais 7 ans. J'étais dans la télévision toute ma jeunesse. J'écris des livres, je suis sur les réseaux sociaux. Je fais peut-être que ça a été ma façon d'aller chercher l'attention. Pas parce que mes parents m'en donnaient pas, au contraire.
Et de sortir de ce milieu-là, peut-être aussi.
Ben, c'est ce que je l'ai dit, moi, chez moi, on arrive, Philou, c'est la vedette. Partout où on va, on l'appelle VIP, Very Important Philip. Parce que partout où tu vas, on dirait que lui, il a des passe-droits. Puis, tu sais, même avec mes parents, j'ai eu cette conversation-là. Quand ils me disent, range ta chambre, ça m'est arrivé de dire, puis Philou, lui, il n'y arrange pas. Fait que, tu sais, ce genre de petite confrontation-là, c'est correct, c'est normal. Mais il y a ce concept-là aussi de dire, j'avais peut-être besoin d'attention, tu sais, souvent, même, c'est drôle, c'est plus vieille que j'ai réalisé que là, tout d'un coup, je vois, c'est correct, là, il prend beaucoup de place, mais moi aussi. Puis, exemple, je vais parler avec mes parents, puis ça arrive encore aujourd'hui. On parle, puis là, Philou, on dirait qu'il sent. Là, il est comme en phase d'adolescence, là. Il a le goût d'être un petit peu plus, je sais pas, tomboy, là, puis il a le goût de te pousser, de te tirailler. C'est un ado. Et là, il arrive, je parle avec mes parents, puis souvent, il va se mettre à leur parler en même temps. Je regarde, puis là, mes parents, ils se disent, attends, Philou nous parle. Je fais, c'est moi qui discutais, là. Là, on avait une conversation. Puis là, dernièrement, puis j'étais tellement fière, c'est drôle, mais mes parents ont chicané mon frère, puis j'étais fière. J'ai fait, c'est rare que je l'ai vu se faire chicaner, pour petit bout. On dirait que d'habitude, c'est tout le temps moi qui se fais dire, hey, mais c'est ton frère. C'est... Oui, mais ça reste mon frère. Il a beau être autiste, dans ma tête, il l'est pas. Fait quand on chicane, puis qu'il m'énerve, mais j'ai le droit de dire, Philou, arrête, tu m'énerves. Ma mère, c'est souvent, Fridou, sois gentil avec ton frère. Là. Il fait pas exprès. Oui, mais on a le droit d'avoir cette complicité-là. Ouais, souvent, c'est ça qui est beau avec les jeunes. Ils disent, mais là, je peux pas lui dire de se taire, il m'énerve, puis je suis en train de travailler, ou il prend mes papiers. J'ai moi, si tu savais le nombre de fois où j'étais allée à l'école au primaire, puis c'était marqué cornemuse, mes devoirs. Parce que mon frère avait décidé qu'il cherchait justement une feuille pour écrire. Puis tout d'un coup, ah tiens, ma rédaction de français, cornemuse, Mario Bros. Je faisais, ah oh, Seigneur. Tu sais, écrit à l'encre au charpie. Je... Mais ça fait partie de ça. Puis c'est la beauté de la chose. C'est justement dire, nous, c'est notre quotidien, c'est notre réalité. Fait que si on peut la présenter aux autres, justement. Mais oui, ces jeunes-là, je pense qu'il y a une pression de se démarquer, mais c'est de garder sa place, puis demander à avoir cette place-là aussi. Parce que c'est sûr qu'on a tendance à s'effacer, je dirais.
On parlait de Léa dans Unité 9, oui. Évidemment, qui a été un personnage marquant
oui.
dans cette série-là. Oui. Comment tu l'as abordé, ce personnage-là, d'abord? Parce que tu savais dès le départ que tu embarquais dans un personnage pas facile.
En fait, c'est ce qui est fascinant avec cette aventure-là, c'est que ça a commencé drôlement parce que j'étais en voyage pendant les premières auditions. Et on avait reçu, à l'époque, c'est ma maman qui était ma gérante, et on avait reçu le call pour l'audition, donc le breakdown, on appelle ça comme ça, donc la description de personnage, tout ça. Et j'avais raté l'audition parce que je pouvais pas être là. Et c'est là que moi, j'ai vu c'était quoi, puis j'ai fait, mon Dieu, c'est donc intéressant. Puis moi, j'aime les choses qui sortent de l'ordinaire, j'aime quand c'est différent, j'aime ça. Puis je voyais le personnage, puis je trouvais qu'il y avait tellement de belle fragilité. Fait qu'on s'est vraiment battu longtemps. Ma mère a fait des appels et des appels et des appels pour finalement se faire dire, ah, mais là, on n'est pas... Tu sais, les auditions ont lieu, on est rendu au callback, tout ça. Et qu'on continue pour dire, mais si vous m'avez demandé au début, pourquoi pas? Et j'ai réussi finalement à obtenir une audition. J'en ai fait juste une. Puis ça, c'est très rare. Très, très rare.
Oui, parce que le callback, c'est ça, c'est comme une deuxième audition.
C'est la deuxième. Je suis arrivée en deuxième tour. Puis j'ai dit, tu sais, dire donnez-moi ma chance, ça vaut la peine des fois. Parce que c'est ça qu'on a fait. On a dit, donnez-lui sa chance, donnez-moi ma chance. On va vous montrer que je suis capable. Puis finalement, je suis arrivée en audition. Puis je me rappellerai toujours que la personne qui me donnait la réplique, je l'ai faite pleurer. Et là, j'ai levé les yeux, puis j'ai réalisé que je pleurais, que la personne qui me donnait la réplique avait embarqué dans mes pleurs, puis qu'en arrière, je voyais que tout le monde me regardait comme ça. Puis ils m'ont dit, on peut-tu te faire une autre scène? Qui est une scène qui, finalement, n'a jamais eu lieu dans la série, mais qui est une scène un peu... Il y avait de la schizophrénie. C'est limite. Et je l'avais appris comme ça, puis j'avais tellement un plaisir fou aller dans une zone noire un peu. Moi, c'est, souvent, les gens me disent « Comment tu fais pour pleurer? » On a tous un petit réservoir. Des fois, ça fait du bien. T'sais, ça défoule. C'est... Puis d'aller chercher, par exemple, Léa, au moment où elle va sur la tombe de son grand-père. Puis il y a quelqu'un qui avait écrit quelque chose en peinture rouge, puis il faut qu'elle essaie de nettoyer, puis elle crie, puis elle pleure. Et moi, à ce moment-là, ma mamie est en phase terminale. Fait que tu sais, il y a des choses, des fois, que tu dis, ça fait du bien. Ça libère, c'est un exutoire. Puis surtout, en sachant qu'en plus, il y a des gens à qui ça fait du bien de libérer ça. Parce que justement, le personnage a ouvert les portes à beaucoup de discussions. C'est ce que je te disais un petit peu aussi. J'ai eu beaucoup de messages qui s'adressaient directement à Léa. Tu sais, des gens qui me disaient « Moi aussi, je m'automutile » ou « Moi aussi, j'ai été victime d'inceste ». Puis je fais « OK, c'est pas moi directement, mais je comprends que là, Daniel Trottier, l'auteur, a fait quelque chose d'incroyable en étant capable de traiter de sujets si difficiles, mais si rassembleurs pour les gens qui n'étaient pas capables d'en parler. Qui a fait du bien. Tu sais, même chose pour les détenus, les prisonniers qui venaient écrire, qui nous parlaient, qui avaient des témoignages. Ils l'écoutaient. Moi, je me rappellerai tout le temps qu'on se faisait dire qu'ils l'écoutaient en prison, justement parce que ça leur faisait du bien d'être représentés comme des vraies femmes et non pas comme des criminels, tous les jugements et les stéréotypes qu'on a sur ces personnes-là. Puis je pense sur toutes les problématiques qu'on voyait dans Unité 9, il y en avait beaucoup qui étaient abordées. Puis c'est, même si c'était lourd, ça devenait quelque chose qui faisait du bien. Fait que ça, je pense que c'est ce que j'ai adoré de cette émission-là. Puis j'ai trouvé le plus merveilleux, c'est comment une femme qui est une auteure a été capable de recréer un univers qui a su toucher des gens si fortement, alors que pourtant, c'est un univers qu'on connaît à peine, qui est le milieu carcéral. Fait que ça, c'est ça pour ça, moi, Daniel Trottier, je lève mon chapeau. Puis là, d'ailleurs, c'est ça, c'est la dernière saison, justement, d'Unité 9. Puis c'est la fin de quelque chose. Moi, je me rappelle, quand mon personnage est décédé, moi, une petite partie de moi, c'est ça, j'ai dit, j'ai vraiment pas filé ce soir-là. C'est drôle, je le savais déjà. En fait, je l'ai su en lisant le texte. En fait, je lisais le dernier texte, puis ils me l'ont donné par erreur. Fait que ça a vraiment été comme une gaffe de quelqu'un.
Parce que généralement, ils avertissent un peu d'avance pour dire que
et
ça,
moi,
c'est
dès que j'ai mes textes, je les lis. Je suis intéressée, je veux savoir l'histoire, puis je lis mes parties, mais aussi celles des autres, puis je veux connaître, puis comprendre dans quel contexte je suis. Et je t'ai rendue à l'avant-dernière page, et là, j'ai reçu un appel. Dit, oui, Daniel Trottier voudrait te parler. Je dis, ah, OK. Il dit, oui, est-ce que tu as fini de lire le texte? Je dis, non, il me reste une page. Elle dit, OK. Donc, puis là, elle m'a annoncé, elle dit, il y a un accident d'auto, le personnage de Léa et Sébastien vont disparaître. Puis je me rappelle, ça. J'ai comme un petit peu arrêté de respirer et j'ai tourné la page. Elle m'a dit, on ne sait pas encore nécessairement ce qui va arriver. Fait que là, logiquement, les deux personnages vont décéder, mais on le sait pas, puis ça va dépendre aussi des réactions. Fait que là, j'ai moqué les réactions de qui. Et je me rappelle, on l'a tourné, on a eu un fun fou à faire ça. C'était des scènes de cascade. D'habitude, normalement, on était censé être dans le véhicule. On tournait ça à l'aéroport de Saint-Hubert. On était censé être dans le véhicule accidenté, mais il a fait tellement pas beau, puis il faisait tellement froid que c'était dangereux. Puis, tu sais, juste être témoin d'une scène comme ça, qu'il y a un véhicule qui revole aussi, ben tout oui. Ça. Puis il y avait une chance de le faire, puis c'est comme un véhicule téléguidé. Puis c'est tellement de trucs que tu connais pas, des cascades, même chose. Avec la première scène dans la saison 1, quand Léa essaie de tuer son grand-père. C'est un homme de 70 ans, le cascadeur, que j'ai poussé en bas d'un escalier. Moi, la petite fille de 17 ans à l'époque...
Tu veux pas pousser un monsieur de 70 ans,
mais mais même chose pour l'acteur qui jouait mon grand-père. Fallait que je fasse semblant de lui donner des coups, mais en même temps, quand t'es dans l'émotion, tu te dis comment je fais ça sans... Je vais pas le... Lui aussi, il a 70 ans, je vais pas le frapper! Fait que c'est toutes des choses qui... C'était phénoménal, mais pour venir à l'accident, justement, d'auto, on l'a tourné, moi, puis celui qui faisait Sébastien, Olivier Barrette, on a tellement eu du fun, puis on avait tellement de complicité de frères et sœurs que même les deux, on s'est regardés, puis on a fait « OK, c'est là que ça se passe ». Puis quand l'accident est survenu, ça, c'était vraiment étrange, mais quand l'accident est survenu, puis je l'ai écouté avec ma mère à la télévision, je me rappelle, j'ai eu le sentiment d'étouffer, puis j'ai été malade. Je suis partie en courant, puis je suis allée vomir aux toilettes, vraiment, littéralement. Ben, j'avais l'impression que tout d'un coup, moi, j'étais virée à l'envers. C'est vraiment bizarre comme concept. C'est là que j'ai réalisé à quel point un personnage dans nos vies... Tu sais, on dit des fois, il y a des acteurs qui se rendent dans un personnage puis ils s'ancrent, puis t'as l'impression que ça devient eux d'une certaine façon. J'ai compris que là, c'est comme si moi aussi, j'étais à l'envers, tout ça. Fait que il y a ce concept-là. Même chose pour la scène, je dirais, avec l'avocate où Léa explique ce qui est arrivé. Puis c'est une scène qui, dans les textes, j'avais 22 pages de texte, je pense, à moi toute seule. Et elle disait oui. Et donc, tu sais, elle posait des questions. Puis ça durait, au départ, avant les coupures au montage, ça durait 11 minutes. C'est 11 minutes de juste lire ce texte-là. J'ai pas été capable de le lire avant la veille parce que dès que je commençais à lire, j'étouffais puis je me mettais à pleurer puis j'étais pas capable. Fait que faire ces scènes-là, c'est là que tu te dis, ça amène, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Puis quand ces personnages-là quittent, t'as l'impression qu'il y a une petite partie de toi qui s'en va parce que ça devient toi, tu deviens elle. Puis c'est ça, ce personnage-là va toujours me suivre parce que je pense que ça a vraiment permis à des gens de se retrouver puis de parler de sujets pas faciles, mais la série en soi, je pense que c'est un succès qui avait lieu d'être.
Mais toi qui aimes beaucoup aider les gens,
oui,
de recevoir autant de messages durs de la part du public, est-ce que ça a été lourd par moment? Parce que j'imagine que dans ta tête, tu voulais tous les aider, alors que c'est pas nécessairement possible.
C'est pas nécessairement possible, mais je dirais que souvent, c'est pas nécessairement de répondre puis de répondre pendant des heures. Des fois, c'est juste de prendre le temps. Je pense que c'est ça qui change le plus les choses. Puis des fois, c'était juste de dire « ça va aller » ou dire un petit message. Puis je pense pour ça que j'ai voulu aussi écrire des livres, pour que ça se retrouve quelque part, qui est l'outil. Mais il y a le besoin d'aider, oui, c'est ça. Je pouvais pas répondre à tout le monde, mais je le faisais quand même fréquemment. Puis un moment donné, je me suis calmée, parce que j'ai dit « là, justement, toi aussi, tu dois prendre le temps de t'aider toi-même. » Ça, c'est pour ça que Isabelle fait là pour toi, puis il faut que je m'en rappelle des fois. C'est que je peux pas aider tout le monde, non. Mais quand tu prends le temps, juste de dire « tu sais, j'ai lu ton message, concentre, tu sais, j'en ai eu des lettres de suicide, là. J'en ai eu plusieurs. Puis souvent, il y a des jeunes. Puis tu dis, quand la puce a 13 ans, puis c'est aussi sérieux, tu fais « qu'est-ce qui s'est passé, quand, comment? » Tu poses pas toutes les questions, mais tu réfères. Fait que je pense qu'en référant, puis juste en... Des fois, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir l'impression qu'il y a une personne qui va les entendre et les écouter. Surtout quand ils sont jeunes. Ouais. À 15 ans, peut-être que sur le coup, c'est violent comme expression, mais c'est ce qu'ils ressentent sur le moment. Mais ils disent comme ça, mais c'est mieux qu'ils le disent, qu'ils le gardent en dedans. Puis un jour, justement, ils attendent trop longtemps avant de le dire, ils le disent pas du tout. Fait que je pense que non, au contraire, je me sentais choyée. Puis les gens ont quand même compris qu'ils sont un personnage aussi. Il y avait quand même la distance, parce que j'ai vraiment adoré aussi de Léa. C'est que malgré que c'était lourd, ce qu'elle vivait, tout ça, puis malgré que, tu sais, à la fin, il y en a qui me disaient c'est la petite maudite, là, la petite poffine, tout ça. Mais tout le monde continuait de l'aimer. Puis quand elle est décédée, personne ne voulait qu'elle meure. Fait qu'il y a comme une fierté parce que dans tous ses défauts et dans toutes ses problématiques, elle est restée belle, elle est restée attachante, elle est restée, ben, vulnérable. Puis je pense que c'est ça qui amène. C'est la proximité avec l'auditeur, c'est quand on sent que cette vulnérabilité, on pourrait l'avoir nous aussi. C'est ça qui est fort. Puis je pense que c'est ça qui a fait que les gens, quand justement les deux personnages, les deux enfants de Marie sont décédés, tout le monde a fait « non! » Parce qu'ils amenaient ça, la vulnérabilité. Puis parce qu'ils sont plus jeunes, on se dit « oui, mais à cet âge-là, comment tu veux réagir à autant de traumatismes dans ta vie? » Fait que je pense que c'était la beauté vraiment de ces personnages-là.
Cédric, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir de te
recevoir. Oui, après le temps,
je pense que les gens ont beaucoup aimé ça.
Merci beaucoup.